Il va être question de Donald Trump et de la crainte politique, économique qu'il peut inspirer au vieux continent, l'Europe et à la France en particulier. Bonsoir Ségolène Bonsoir. Royal. On va en débattre avec vous et avec Alain Duhamel, bien sûr.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel. Mais tout de suite, nous allons retrouver notre correspondant aux États-Unis, notre envoyé spécial aux États-Unis. C'est Ulysse Gosset. Non, c'est Thierry Arnaud, pardon, qui est là. Oui, bonsoir Thierry. Rebonsoir. Donald Trump a mis en marche l'administration, a mis en marche son programme. Là, il chôme pas dès le début de ce nouvel arrivé dans le bureau ovale.
Non, c'est très clair Alain, et ça vaut aussi bien sûr pour les sujets économiques et internationaux. L'Amérique d'abord, c'est ça qui va guider son action. Quelques exemples pour le montrer, la décision de sortir immédiatement des accords de Paris sur le climat, la décision de quitter l'Organisation mondiale de la santé, deux participations qui à ses yeux ne servaient pas les intérêts des États-Unis, la volonté aussi de mettre en place rapidement des tarifs douaniers prohibitifs, singulièrement avec le Canada et le Mexique. C'est comme ça que Donald Trump entend montrer la force des États-Unis, la force de sa diplomatie et cette façon finalement de fonctionner avec des deals également sur les grands sujets. Il s'est dit prêt à rencontrer rapidement le président chinois, très rapidement le président russe également. Il a la volonté de faire des deals. Il a revendiqué d'ailleurs le succès de l'accord sur les otages israéliens à nouveau hier à l'occasion de sa journée d'investiture. Et c'est une façon assez éclairante de montrer son approche du dialogue avec les autres pays, puisqu'il a expliqué qu'il avait choisi un négociateur plutôt que quelqu'un qui connaissait le dossier, qui est aussi un ami personnel, un partenaire de golf. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le plus qualifié sur le fond du dossier, mais il savait faire des deals et c'est comme ça que Donald Trump envisage sa relation avec les milieux économiques internationaux dans les années qui viennent.
Thierry Arnaud en direct de Washington avec Nils Cambier pour BFM TV. Donc on doit s'inquiéter, la France-Europe, tout le monde doit s'inquiéter, Monsieur Duhamel ?
Non, je ne crois pas que la peur soit la réaction la plus intelligente, parce que la peur, c'est déjà en soi un manque de sang-froid, donc une défaite. Donc non, ce n'est pas la peur qu'on doit avoir. En revanche, on doit le prendre au sérieux, parce que c'est un matamor, mais d'un type très particulier. Il multiplie les rodomontades, il adore ça. Il adore provoquer, mais il n'a pas du tout, contrairement au matamor habituel, peur de se battre. Au contraire, il pense que dans chaque négociation, il peut gagner. Et il faut reconnaître que dans un certain nombre de négociations, il lui est arrivé de gagner. On ne peut pas dire le contraire. Alors devant ça, il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut de l'énergie et donc pas de la faiblesse. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut de la solidarité entre Européens. C'est absolument essentiel. L'ennui, c'est que c'est essentiel, mais que ce n'est pas garanti. Que la tentation, on le voit bien, on le voit déjà, évidemment particulièrement avec Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italienne, mais on le voit déjà, la tentation que chaque pays essaye d'avoir un traitement particulier et une relation spéciale. Et si on veut avoir une chance de pouvoir lui répondre, non pas pour faire la guerre, mais pour défendre nos intérêts, ce qui est quand même la moindre des choses, ça ne peut marcher que si c'est collectif.
Oui, la peur est mauvaise conseillère. Hein, déjà, comme disait Kennedy, nous n'avons rien à craindre sauf de la peur. Je dis ça parce qu'en plus, il a promis, vous avez vu, de lever le secret sur les archives concernant Kennedy et concernant Martin Luther King. Donc, ça va être intéressant. Et je dirais qu'il y a des domaines où on peut être inquiet dans la mesure où il y a de l'incertitude. C'est le domaine économique et c'est le domaine du climat. Mais nous ne sommes pas inertes. Nous n'avons pas à rester dans ces postures de repli et de peur. J'y reviendrai peut-être. Et il y a des domaines où on est rassuré. Il faut quand même avoir l'honnêteté politique de le reconnaître.
Par exemple,
la libération des otages, comme l'événement le plus important qui a eu lieu pendant l'intronisation de Donald Trump, c'est quand même le cessez-le-feu, la libération des otages, son discours affirmant qu'il voulait la paix partout et qu'avec lui, il n'y aurait pas la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est un discours très différent de celui que tenait Joe Biden. Et on verra d'ailleurs les prochains.
Joe Biden ne souhaitait pas la Troisième Guerre mondiale.
Non, il ne la souhaitait pas, mais il ne faisait rien non plus pour dire je vais faire la paix.
Il n'a pas organisé.
Je vais faire la paix en Ukraine ou je vais faire libérer les otages. En tout cas, il n'est pas intervenu.
Si, il a essayé sur les otages.
C'était pas sa logique. La logique de Trump, en effet, c'est de se dire, parce que c'est un homme d'affaires, que les guerres sont absurdes et qu'il y a bien mieux à faire. Et d'ailleurs, parallèlement, son discours est crédible puisqu'il donne aussi aux Américains un discours optimiste. Il y a un discours avec une nouvelle frontière, un peu comme l'avait fait Kennedy d'ailleurs.
Il parlait de l'âge d'or.
C'est ça, l'âge d'or, Mars, etc. Et donc cette question, et donc plutôt que d'avoir des dirigeants politiques, même comme a fait Emmanuel Macron là devant, s'est vu aux armées disant vous allez, on va voir la guerre, mais vous allez voir la guerre en,
non,
la
non,
guerre
en Ukraine n'est pas prête d'être finie.
Au lieu
non,
de dire ça, moi je verrais plutôt des dirigeants politiques. En tout cas, moi j'aurais fait ça à la place d'Emmanuel Macron, c'est de dire, mais si vous avez en effet la force de pouvoir réaliser la paix et de mettre fin à ces terribles souffrances, nous serons avec vous. Et nous voulons être dans ce scénario, au lieu de se marginaliser et d'être complètement éjecté des efforts diplomatiques mondiaux.
Bon, alors d'abord, je ne pense pas que le sujet de Trump, ce soit spécifiquement Emmanuel Macron. Mais sur le fond des choses, Trump, c'est quelqu'un, il faut pas être de mauvaise foi, il a des qualités évidentes, et en particulier d'ailleurs de la façon de se mettre en scène. De ce point de vue, on peut dire que la cérémonie d'investiture, c'était dans son genre assez remarquable. Cela dit, sur le fond, c'est difficile de le regarder simplement avec sérénité et en pensant que c'est un homme de stabilisation. Ça n'est pas un homme de stabilisation.
Oui,
s'il déclenche, comme il l'a dit 10 fois qu'il le ferait, peut-être qu'il ne le fera pas, mais il a dit 10 fois qu'il le ferait, une guerre commerciale avec le reste du monde, ça n'est pas un gage de stabilité. Mmh. Et de notre part, nous Français, mais de notre part, nous Européens, dans un cas comme ça, il faut bien qu'on se défende aussi. Il faut bien qu'on utilise les armes dont on dispose. Il ne faut pas oublier quand même, parce que les Français en particulier, mais les Européens en général, ont tendance à sous-estimer leurs propres atouts. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe est le premier marché commercial du monde. Et donc, oui, on n'est pas sans ressources, on n'est pas sans moyens de rétorsion. Mmh. Mais il n'empêche que s'il fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire s'il lance ce qui s'appellerait à ce moment-là une désorganisation du commerce mondial, eh ben, ça n'est pas un gage de stabilité. Bon, de même, sa façon, vous dites, c'est un homme de paix. Moi, je ne demande que ça.
Il s'est présenté.
Non, mais attendez, je ne demande que ça.
Il y a moins de guerre sous Trump, lors de son premier mandat, que sous l'ère Biden. Oui. Même si Biden n'est pas responsable de l'invasion de l'Ukraine.
À ma connaissance, je n'avais pas fini, à ma connaissance, Biden n'a pas déclenché de guerre,
non.
Franchement.
Non.
On ne peut pas lui dire ça, on ne peut pas lui reprocher ça.
Il n'a pas arrêté non plus.
Attendons, c'est dommage qu'il ne soit pas parvenu à les arrêter, mais ne décrétons pas à l'avance que Trump, lui, il parviendra, parce qu'on n'en sait rien.
Dans tous les cas.
Et il faut le souhaiter, en tout cas. C'est-à-dire que s'il y a la paix en Ukraine, c'est une nouvelle force économique aussi pour l'Europe. Car nous payons beaucoup plus les dégâts de cette guerre que les États-Unis d'Amérique. Première chose. Seconde chose, c'est vrai que, il y a une incertitude économique. Vous l'avez très bien dit.
Et climatique, quand même, vous, c'est quand même royal.
Climatique.
Ce qu'il raconte sur le climat, les véhicules électriques, on les met de côté. On va forer. L'accord de Paris, une fois de plus, je n'en veux pas.
Ça doit quand même vous, spécialement, vous choquez,
oui,
quand même.
Mais je vais vous dire.
Parce que l'accord de Paris, vous avez fait ce que vous avez
absolument
pu pour y contribuer.
Oui.
Donc, quand vous voyez.
Laissez-moi répondre.
C'est la deuxième fois qu'il l'annule.
Donc, d'abord, sur la menace économique, mais tout dépend de nous également. Vous voyez, la menace économique, elle est là parce que l'Amérique est forte, parce que le dollar est fort, parce que la bourse américaine est forte, parce qu'ils sont en train de capter les efforts de recherche et d'investissement. Donc, soit on est partenaire. Effectivement, y compris partenaire dans la conquête spatiale de Mars, parce que la France a des atouts dans ce domaine-là, nous avons des savoir-faire dans ce domaine-là. Donc, essayons d'être partenaire plutôt que d'être dans des postures de critique, de défense, de dénigrement, de petitesse. Ça, c'est la première chose. Sur le climat, c'est une très mauvaise nouvelle, bien évidemment, la sortie de l'accord climat. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a la dénonciation d'une hypocrisie. Et il y a une telle hypocrisie sur la question climatique, c'est-à-dire ceux-là même qui font des discours de moralité sur le climat, ne respecte pas ses engagements. Le gouvernement français ne respecte pas les engagements de l'accord de Paris sur le climat.
Oui, mais ne l'annule pas.
Les grands messes climatiques qui ne servent à rien, et qui ont un bilan carbone catastrophique, alors que nous avons un plan d'action et qu'aujourd'hui, on devrait être capable tous les mois de faire le bilan sur les coalitions d'action au lieu de continuer à négocier on ne sait quoi, puisque l'accord de Paris est là. Et enfin, l'idéologie américaine, c'est de se dire, finalement, personne ne fait vraiment d'efforts pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et donc, c'est d'une certaine façon une compétition déloyale à l'égard de ceux dont le développement dépend du pétrole. Alors, il faut convaincre sur cette question-là, parce qu'en effet, les dégâts climatiques du fait de l'utilisation des énergies fossiles est une catastrophe. Et donc, eh bien, là, il y a un défi à relever. C'est-à-dire que la France et le pays où il y a eu l'accord de Paris, nous devons reprendre les négociations avec Donald Trump et regarder comment ensemble on peut faire changer d'avis sur un certain nombre de sujets.
Le fait que justement, par exemple, il décide d'encourager l'extraction de pétrole, comme il avait encouragé le gaz de schiste
La France aussi. Enfin, d'accord. Moi, j'ai eu des demandes de Total pour forer en Guyane.
Attendez.
J'ai eu des demandes de Total pour forer en Guyane. Attendez, j'étais ministre.
C'est moi qui réponds, là. J'essaye.
Énergie,
laissez-moi faire, quand même. Bon, alors, il est celui qui se présente en disant « Maintenant, on va forer beaucoup plus et comme on a les premières réserves du monde, c'est ce qu'il dit, et c'est vrai, bon, on va pouvoir en extraire énormément. » C'est difficile de croire à la fois à la nécessité d'une politique écologique et de ce point de vue, c'est pas la peine d'accabler l'Europe parce que si les États-Unis faisaient autant d'efforts que l'Europe proportionnellement, ça irait quand même mieux. Bon, donc c'est difficile d'accabler l'Europe alors que c'est les États-Unis qui proclament par sa voix qu'ils vont en prendre exactement la direction opposée. Par ailleurs, vous le dites, c'est un faiseur de paix. Je ne demande que ça, que ce soit un faiseur de paix. Mais quand je vois, par exemple, la façon dont, sur la question terriblement compliquée de l'immigration, il décide de militariser sa réponse, parce que c'est ça qu'il fait. Alors, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que, pour le coup, il ne fera pas exactement ce qu'il a dit, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il proclame vouloir faire, c'est militariser la réponse. C'est pas l'engagement non plus dans la stabilité, ni dans l'humanité.
Il répond à ses électeurs.
Il
répond à ses électeurs.
C'est pour ça qu'il a été élu.
Si chacun faisait exactement la politique que souhaitent les électeurs, alors pour le cas, dans chaque pays.
C'est embêtant pour la démocratie, c'est la démocratie. Mais non,
il
est élu.
Non, et puis il faudra juger aux actes.
Non, alors, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La démocratie, ça consiste à demander aux gens de choisir ceux qui les gouvernent. Ça n'est pas de demander à ceux qui gouvernent de faire exactement ce que chaque partie de la population souhaite.
Oui, mais c'était dans son programme. On ne peut pas reprocher à Donald Trump de vouloir appliquer son programme. Il a été élu.
Je n'ai jamais dit qu'il faut lui reprocher son programme, mais je dis regardons les conséquences de son programme et sa résolution, ce qui est plus important, à le mettre en œuvre tout de suite. L'exemple que je prends sur l'immigration, ça n'est pas pour dans 3 ans et demi, c'est pour maintenant.
Dans tous les cas, on a entendu le président de la République et le Premier ministre réagir dans les heures qui ont suivi l'investiture de Donald Trump. Écoutez, le président Macron et le chef du gouvernement, François Bayrou.
Demain, que ferons-nous en Europe si notre allié américain retire ses navires de guerre de la Méditerranée? S'il bascule ses avions de chasse de l'Atlantique vers le Pacifique? Et je n'ai pas évoqué là beaucoup d'autres choses qui pourraient advenir. Eh bien, face à tous ces scénarios, c'est simple. La réponse devra venir de nous, Français et Européens.
Les États-Unis ont décidé d'une politique, et une politique incroyablement dominatrice. Et si nous ne faisons rien, eh bien, notre destin est très simple. Nous allons être dominés. Nous allons être écrasé.
François Bayrou joue sur la peur, là.
Oui, c'est ça. Mais je pense que ce n'est pas le rôle des leaders politiques.
Dominer, écraser, marginaliser.
C'est ça. Est-ce que c'est le rôle des leaders politiques, on vient de l'entendre, de faire peur ou de prédire le pire? Mais non, c'est tout le contraire.
Bah, il faut dire qu'on doit se secouer
mais
pour
attendez,
ne pas.
Il faut un discours optimiste. Il faut un discours volontariste.
Ça n'est pas du tout ce qu'il dit.
Il faut se dire qu'on a justement la.
Mais même Macron dit qu'il faut se prendre en main.
Mais non, il dit exactement le contraire.
Il le fait par rapport à des hypothèses qui sont les plus catastrophiques.
Mais non, pas du tout.
Les Américains sont nos alliés et puis tout d'un coup ils deviennent nos ennemis.
Mais non, c'est pas du tout ça.
C'est des postures.
Mais non, l'hypothèse selon laquelle il retirerait une flotte de la Méditerranée. C'est pas du tout de l'absurdité. Dans l'histoire militaire des États-Unis, il est arrivé très souvent qu'ils décident de retirer une flotte d'un endroit à un moment donné. Donc, c'est pas un rêve.
Oui, mais il faut donner une autre perspective.
Mais c'est peut-être une chance pour la France et l'Europe de se prendre en main militairement aussi.
Peut-être.
Un vieux débat.
La chance de la France et de l'Europe, c'est d'avoir la paix surtout.
Oui.
Et de ne pas oublier
d'avoir la paix, il faut s'armer aussi.
On va être obligé de faire des dépenses militaires extravagantes alors qu'il y a tant à faire et qu'il y a tant de besoins et que la guerre sème tant de drames. Et si nous voulons être qualifiés d'humains, il faut être capable de faire la paix, d'arrêter les guerres et de les empêcher. Ça, c'est notre fil conducteur. Et par rapport à ça, puisqu'il y a un nouveau président des États-Unis qui arrive et qui dit « Moi, je ne veux pas la Troisième Guerre mondiale. Moi, je veux peser pour résoudre les problèmes et mettre fin aux guerres. Mais soyons partenaire de cette volonté de paix. Et après, on jugera sur les actes. Soyons partenaires des volontés de paix et ne cherchons pas des postures belliqueuses simplement pour exister politiquement. Ça, c'est insupportable.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que s'il prend des positions, s'il choisit des actes qui vont dans le sens de la stabilité et de la paix, tant mieux. Mais si on se rappelle...
en tout cas.
Tant mieux. Mais si on se rappelle... Si on se rappelle sa campagne et ce que lui disait, parce que nous inventons ce que lui n'a cessé de dire, c'est quand même difficile de le présenter comme le nouveau Gandhi, non. Franchement.
Il l'a dit déjà pendant sa campagne.
Qu'il était le nouveau Gandhi ?
Non, qu'il ferait tout pour...
Alors, hier, il a parlé qu'il serait l'homme qui ferait la paix.
Oui, mais on verra. Oui.
Après, il fera des guerres économiques.
En attendant, cet avènement de Donald Trump, cette investiture... continue de faire réagir. Il est un ancien responsable politique qui est sorti de son silence, mais via les réseaux sociaux, c'est François Fillon, l'ancien chef du gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Voilà ce qu'il a écrit, François Fillon, sur ce réseau social X. L'investiture provoque en France des réactions démesurées qui illustrent nos faiblesses, dit-il, notre déclassement. Voilà ce qu'écrit l'ancien Premier ministre, François Fillon. Il continue, souhaitons bonne chance à Monsieur Trump et donnons-nous, les moyens d'incarner une alternative française et européenne face aux dérives des empires. Vous êtes d'accord ?
Oui, je ne sais pas si François Fillon est une bonne référence pour évaluer les choses, mais disons que...
Bah, il peut avoir raison sans être une référence quand même.
Oui, c'est ça, mais disons que je suis favorable à ce qu'on enclenche des dynamiques positives. Vous voyez, effectivement, qu'on ne soit pas dans ces postures de critique, de dénigrement, de caricature. Prenons ce qui est bon, soyons avertis sur ce qui est instable, sur ce qui est là où on ne sait pas clair, et soyons combatifs là où, en effet, ça peut être négatif. C'est ça gouverner, c'est ça être partenaire
François Fillon, ce qu'il raconte.
Attendez, ouais. En ce qui concerne caricature, dénigrement, etc., je reconnais que c'est extrêmement mal de le faire, mais je vous rappelle ce que Trump n'a cessé de faire pendant sa campagne, notamment vis-à-vis des Européens. La caricature, le dénigrement et même l'insulte. Il ne faut pas oublier ça quand même.
Là, on est sorti de la campagne. Là, ça y est.
Ah oui, d'accord.
Non, mais d'accord. Mais
la campagne, c'est pas le droit de dire n'importe quoi. Surtout quand on est maintenant le président de la première puissance du monde.
En tout cas, ils ont un projet spatial. En tout cas, il a une parole forte vis-à-vis du peuple américain. Je partage pas du tout. Je l'ai pas soutenu. Il a une parole forte vis-à-vis du peuple américain. Il demande aux gens de se remobiliser pour le travail. Il a pris un décret. Il a pris un décret pour lutter contre la hausse des prix. C'est-à-dire qu'il a frappé sur les spéculateurs intermédiaires.
Qui est, soit dit en passant, un peu moins de 3% aux États-Unis.
Oui, mais enfin, il l'a fait. Il a fait
c'est
des
Biden
choses
qui, opérationnelles. C'est Biden qui l'a fait baisser.
Mais non, là, il a signé un décret.
Non, mais c'est Biden qui l'a fait baisser. Elle était de 12% et elle est de 3%.
Attendez, Biden, si vous voulez, il vient de signer l'amnistie
pour
sa famille.
Vous inquiétez pas, Alain Duhamel, Madame Royal.
Ça, c'est les corrompus. Il signe l'amnistie pour sa famille.
Vous reprochez à Biden donne une amnistie alors que Trump vient d'amnistier 1200 personnes qui s'en sont pris au Capitole, franchement. Alors là,
honnêtement, choqué par l'un et par l'autre.
On peut choquer par les deux.
Bien entendu, mais on ne peut pas mettre ça sur les mêmes plans. La famille Biden n'a pas été prendre le Capitole de force.
D'accord, enfin, gracier son propre fils.
Mais non, mais je ne vous dis pas que c'est bien. Je ne vous dis pas que c'est bien. Pardon, ça. Dieu merci, je ne crois pas que ce soit demain.
Alors, juste un dernier mot, parce que le week-end dernier, au sein de la gauche, on a revécu des querelles socialistes à l'ancienne entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Ce qui a valu un tweet remarqué de la part de Madame Royal est remarquable, puisque sur RTL, voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. François Hollande est une machine à tromper. Et alors, vous avez retweeté, ça c'est pas faux, c'est la bonne blague du jour. Ah ben, c'était public là du coup.
C'est drôle.
Vous n'avez pas pu vous
en rendre compte. Non, mais ça a plu. Les gens, ils ont envie de rire un peu. On est tous tellement plombés par la cacophonie, les zizanies, et puis l'état du pays, quand même.
Ça vous a fait du bien de le
tweeter,
ça, quand
même. Il y a un projet de loi sur l'aide active à mourir, alors que la natalité vient de s'effondrer.
Ça vous a fait rire, Alain Duhamel ?
Honnêtement, oui.
Ah, même vous, alors c'est formidable.
Mais non, pourquoi même moi? Quand il y a quelque chose de
vous
drôle...
Avez hésité avant de le faire, celui-là? Non.
C'était instinctif.
Non, c'est pas tellement votre genre d'hésiter.
Un cri du cœur.
Merci. Je réfléchis quand même.
Non, réfléchir et hésiter, ce n'est pas la même chose.
Merci Madame Royal, merci Monsieur Duhamel.